un bal, musette, une auberge ouvrent leurs yeux verts. Le chaland glisse sans trêve sur l'eau de Satin.
Tranche de vie, vagabondage dans nos existences. Chers auditeurs de Tranche de vie, vous savez que notre émission est consacrée beaucoup au voyage des personnes dans leur existence. Et ces voyages, ce sont quelquefois des voyages par voie d'eau. Il y a des marins. Il y a des marins qui vont sur la mer, mais il y a aussi des marins d'eau douce. Il y a pas quelque temps, j'ai eu le plaisir de faire parler Pierre qui, dans une partie de son existence, a été un vrai marin. Mais aujourd'hui, il est de retour et il va nous parler avec Fabienne de leur vie de marin d'eau douce. En effet, pendant assez longtemps, ils ont navigué sur les canaux, sur les fleuves. Et ils vont nous expliquer cette partie de leur existence et le plaisir qu'ils y ont pris. Fabienne et Pierre, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de RLP. Comment êtes-vous arrivé à devenir des marins d'eau douce ?
Alors d'abord, bonjour, merci de votre accueil. Je voudrais dire que, comme tous les marins, j'avais une notion de péjorative en parlant des marins d'eau douce. Depuis que j'ai été marin d'eau douce, je n'ai plus cette notion péjorative parce que, d'abord, ça n'a rien à voir avec la navigation en maritime. Et c'est pas toujours facile. Maintenant, pourquoi nous sommes arrivés à avoir une péniche? C'est parce que, à la retraite, moi j'avais envie d'acheter un bateau. Fabienne n'est pas du genre maritime. Donc, après avoir hésité, je lui ai proposé d'aller chercher une péniche en Hollande. Ça nous a donné l'occasion de visiter la Hollande et nous avons trouvé donc une péniche là-bas. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé.
Donc, d'abord, je te prie de m'excuser d'avoir employé cette expression péjorative, hein, qui est tirée, c'est une insulte favorite du capitaine Haddock. Mais pourquoi la péniche et pourquoi la Hollande ?
Alors, l'idée m'était venue il y a très très longtemps, mais j'avais rencontré un ami à Amsterdam qui vivait sur une grosse péniche, un gabarit qui n'existe pas en France. Et je m'étais dit, mais ça serait intéressant de vivre sur un bateau, même une péniche, avec encore une fois cette notion, les marins et les marins d'eau douce, c'était mieux que rien. Et puis, à l'époque, c'était juste un peu après, j'ai divorcé de ma femme américaine, et donc on a oublié la péniche. Donc ça m'est revenu. Alors, à la retraite, j'ai dit, bon, puisque le bateau, le voilier, c'est pas possible, pourquoi pas la péniche? Essayons, et ça peut être sympa. Et c'était très sympa.
Alors maintenant, je vais me tourner vers Fabienne et lui demander si elle a adhéré à ce projet un petit peu fou, puisque finalement, ça s'est mué en un séjour qui a duré. Est-ce que toi, tu étais contente, Fabienne, ou bien est-ce que tu y es allée un petit peu reculée en te disant « une péniche, c'est petit
». Oui, effectivement, je n'avais pas mesuré ce que ça pouvait avoir comme taille une péniche. Et puis surtout, plus elle était grande, plus elle était difficile à manipuler. Et donc, ça a démarré par le fait qu'on a dit, tiens, si on faisait un séjour sur le canal du Midi pour voir ce qu'il en est de la navigation des péniches. On a trouvé un tarif tellement élevé, c'était tellement cher, que c'est à ce moment-là qu'on a décidé de partir en Hollande et de trouver quelque chose de plus accessible.
Alors, comment achète-t-on une péniche ?
Alors, à cette époque-là, j'avais du temps libre, j'ai fait beaucoup de recherches sur le net, et on a pris des rendez-vous en Hollande, et j'ai essayé d'organiser le voyage pour que ce soit possible, parce qu'il s'est avéré que la Hollande, c'est un pays extraordinaire pour les bateaux, et pour ceux qui aiment les bateaux. Et donc, on a fait le tour de tous les bateaux, une petite dizaine, même pas, une grosse poignée, disons, de bateaux qu'on avait repérés. Et chaque fois que je montais à bord du bateau, je regardais Fabienne. Et un jour, j'ai vu qu'elle avait un peu des étoiles dans les yeux à propos de ce bateau-là, et on a acheté celui-là. C'est celui qui ressemblait le plus, en exagérant un peu, à un appartement. Disons, pour qu'elle ne soit pas trop dépaysée, justement.
Alors, Fabienne, est-ce que tu confirmes? Tu as eu le flash positif pour, ah, pour ce bateau. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce bateau? Est-ce que c'était vraiment une péniche ou bien est-ce que c'était quelque chose qui ressemblait plus à un appartement qu'une péniche?
Il faut dire que je ne connaissais pas trop une péniche, ce que c'était. Donc, effectivement, j'ai trouvé que c'était pas trop éloigné d'un appartement, comme tu me dis, Pierre, mais le mot appartement ne m'emballe pas trop. Mais disons qu'elle était claire à l'intérieur, lumineuse, c'était surtout ça. On avait vu que des péniches qui étaient sombres, sans fenêtres, sans ouverture. Là, il y avait de la lumière quand on est descendu dans le bateau. C'était ça, c'était Ivanka.
Donc ça veut dire qu'il y avait des fenêtres, il y avait des baies vitrées. Est-ce que tu peux décrire un petit peu pour nos auditeurs ce bateau, donner quelques dimensions?
Alors les dimensions, effectivement.
Ou sinon, on reviendra vers Pierre.
On reviendra vers Pierre parce que c'était pas une donnée qui m'intéressait, la taille du bateau. Encore que. Moi, j'avais envie d'un bateau très beaucoup plus long, mais beaucoup plus difficile à manœuvrer. Donc, Ivanka, quand on descendait dans l'arrière du bateau, c'était une toile claire, donc c'était déjà très lumineux.
Alors, tu as prononcé le nom du bateau, hein, Ivanka. Oui. Ivanka, c'est le nom que vous lui avez donné ou le nom qu'elle avait d'origine?
C'est le nom qu'elle avait d'origine. Elle s'appelait comme ça, Ivanka. On n'a rien changé. Et donc, après, quand on pénétrait dans l'espace de vie, c'était effectivement comme dans une maison, avec un petit peu plus étroite, mais comme dans une maison. C'était lumineux, on voyait l'extérieur, il y avait des installations qui étaient convenables. C'était comme une vue, effectivement, comme dans une maison.
Pierre a sorti sa tablette et il a affiché une photo d'Ivanka, qui ressemble effectivement à une péniche, mais quand même avec des superstructures très très lumineuses apparemment, puisqu'il y a des fenêtres qui sont beaucoup plus importantes que sur les appartements des péniches classiques.
Alors d'abord c'est un bateau hollandais, ça s'appelle en hollandais IJsselaak, avec l'accent chinois, et ça veut dire bateau de lac, je crois. Donc c'est un bateau d'eau douce. Il fait 14 mètres de long, 3 mètres 60, 70 de large. Et il était très clair parce que les fenêtres sont très très grandes. Oui. À l'arrière, il y avait ce que moi j'appelais par habitude le cockpit, mais qui ressemble plutôt à, un balcon, qui était abrité par une toile de couleur beige qui fait avec le soleil. Dès qu'il y avait un rayon de soleil, c'était extraordinaire. On était très très bien là.
Là, c'était une sorte de terrasse privative, ou bien est-ce que c'était...
Oui. Voilà, oui, c'est une sorte de terrasse. Après, la grande pièce, c'est qu'on appelle la marquise quand il y a une femme à bord. Sinon, c'est la timonerie. C'est là où il y a donc la barre pour conduire le bateau. Et c'est là où on peut vivre, le salon, disons, dans l'appartement. Et en descendant, il y avait la cuisine, qui était assez grande, donc pour qu'on y mange à quatre, facilement. Et puis ensuite, il y avait un lit assez large, une salle de bain, donc le minimum, les toilettes, et puis il y avait même une machine à laver. Et donc c'est plutôt une petite garçonnière, plutôt qu'une maison. Comme taille, ça faisait 30 mètres carrés maximum. Donc c'était quand même assez spacieux et confortable. Maintenant, la longueur 14 mètres, c'est vraiment le maximum pour que ce soit pas seulement manœuvrable, mais surtout pour trouver une place quelque part sans problème. La première chose qu'un capitaine de port te demande, quand tu demandes si tu peux venir t'arrêter chez lui, il te dit, vous faites combien de longueur? Parce que plus c'est grand, plus ça prend de la place, et c'est souvent très encombré. Donc c'était vraiment la taille maximum.
Par rapport aux péniches du commerce, c'est un petit bateau? Quelles sont les dimensions des grosses péniches, des péniches commerciales?
Alors, d'abord, les péniches traditionnelles commerciales, qu'on appelle le gabarit fraissiné, elles font 40 mètres de long. Donc, moi, je faisais 15 mètres. Et elles font 5 mètres de large, c'est-à-dire elles font la taille des écluses.
C'est une voiture privée comparée à un poids lourd.
Oui, un petit poids lourd, parce que les péniches modernes, elles sont beaucoup plus grandes que ça. Il y en a qui font 100 mètres de long, plus 12 mètres de large.
C'est celle qu'on voit sur le Rhin, à Düsseldorf, par exemple.
Oui, les grandes péniches qu'on voit en Hollande, en Belgique, il y en a énormément. On se demande pourquoi il n'y en a pas en France, d'ailleurs, mais parce que ça marche bien là-bas, et chez nous, apparemment, ça ne marche pas bien.
Tant que ce soit une question de gabarit des voies d'eau, ou d'installation, ou des écluses.
Alors, il y a plein de canaux qui sont au gabarit Freycinet, qui sont tous au gabarit Freycinet en France, en France par rapport à la Bretagne, par exemple, qui a un réseau de canaux séparés, on ne peut pas le rejoindre par rapport aux canaux à l'intérieur de la Terre. Donc le minimum, c'est le gabarit Freycinet, et il paraît que les bateaux aujourd'hui ne sont plus assez rentables. Les Freycinets sont trop petits pour être rentables. Mais on a vu des convois. Deux Freycinets l'une derrière l'autre, ce qui fait déjà 80 mètres de long, ce qui est pas mal. Hein.
Vous avez pris possession de la péniche, vous l'avez équipée pour vivre dessus. Quel problème ça a posé, Fabienne, cette mise en état de la péniche pour vivre dessus? Ou bien est-ce que tout était prêt et vous n'avez eu qu'à démarrer?
Certes, tout était prêt, on pouvait démarrer, mais on a fait quelques améliorations. Et puis on a appris à faire ce qu'on dit entre nous, Andy et Petra. Andy et Petra, c'était un couple qui avait aussi un petit bateau. Et donc, elle m'a appris à déplacer les choses pour accéder aux choses. C'est-à-dire, on déplace trois choses pour accéder à la quatrième. Et ça, c'est l'attitude qu'il faut avoir quand on est sur un bateau, parce que pour gagner de la place, on superpose beaucoup. Et on a toujours besoin de chercher ce qui est le plus difficile à attraper. Donc, on faisait du Andy et Petra.
On va poser des questions de genre. Quel était ton travail sur la péniche, toi, Fabien?
Alors moi, sur la péniche, j'étais la plupart du temps à l'extérieur, aux amarres, pour amarrer le bateau quand on voulait s'arrêter ou quand on voulait passer dans une écluse. La plupart du temps, j'étais à l'extérieur, à l'avant.
Et c'est toi qui lançais les amarres et puis alors tu faisais des tâches ménagères, je suppose.
Ah, bien sûr. Tout ce qui est de l'ordre de la préparation des repas, ben je m'en chargeais pendant que Pierre continue à manœuvrer.
Comment vous êtes-vous déplacé? Est-ce que vous aviez un plan préétabli, ou bien est-ce que ce plan de déplacement, il se faisait comme ça, au gré des humeurs, au fur et à mesure, vous disiez, bah, tiens, on va partir dans cette direction, ou bien on va prendre cette voie d'eau?
L'inconvénient d'une péniche, c'est qu'on ne peut pas aller partout. On est obligé d'être sur un canal ou une rivière, à la différence d'un van, par exemple. Mais nous, on est parti de la Hollande, et on s'est dirigé vers la France, un peu au pif, oui, comme ça. Et on s'est arrêté là où on a pu, et puis suivant la date. Et après, on a toujours fait ça à peu près. Tiens, puisqu'on est là, si on allait dans ce coin-là, et petit à petit, on a couvert pratiquement tous les canaux du nord-est de la France. Celui qu'on a évité, c'est le canal du Midi. D'abord parce que tous les retraités descendent au canal du Midi. Et puis parce que comme je n'avais pas un moteur super puissant, je n'étais pas sûr de pouvoir remonter le courant du Rhône au retour. Ce qu'on peut faire de toute façon en se mettant à couple avec une grosse péniche, mais enfin bon, c'est un peu compliqué. Et puis, on s'est arrêté, après on n'a pas eu le temps d'y aller de toute façon.
Donc vous avez quand même limité vos déplacements au nord-est de la France? Disons
limité,
la partie.
Non, parce que c'est pratiquement là où il y a tous les canaux en ce moment,
oui.
qui sont ouverts. Ça va jusqu'au canal de Bourgogne et un peu la Saône. Voilà, on a pris le Doubs aussi, donc pour descendre un peu plus bas que le nord-est. Mais sinon, les canaux sont principalement dans ce coin-là.
Et en dehors de la France, est-ce que vous avez navigué sur des pays européens? Tu as parlé de la Hollande, bien entendu, mais sur d'autres pays comme l'Allemagne, par exemple.
Alors, on a commencé par la Hollande, avec des superbes écluses, très actives. Il y a beaucoup de circulation de gros bateaux de commerce, mais il y a aussi beaucoup de bateaux de plaisance, très propres, très efficaces et tout ça. On a passé la Belgique où c'était aussi très, très actif. Alors, des grandes écluses de 120 mètres de long, pleines à bourrer de bateaux de commerce, donc de gros bateaux, et de deux ou trois petits bateaux coincés entre... Et puis on est arrivé en France, et là on est tombé au Moyen-Âge. On s'est trouvé des petites écluses mal entretenues, pleines d'herbes, de trucs, des cochonneries qui poussaient. Souvent, la porte en panne, il faut téléphoner pour qu'on vienne te dépanner, enfin des choses comme ça. Mais on n'a fait que ces trois pays-là, la Hollande, la Belgique et la France.
Donc ta conclusion, c'est que la voie d'eau, les voies d'eau, les canaux, sont négligées, sont sous-utilisées en France pour une raison que tu ne t'expliques pas ?
Alors, sont nettement sous-utilisées, en partie à cause du gabarit, qui devient donc moins rentable aujourd'hui, parce que ces fraissinets de 40 mètres de long et 5 mètres de large sont plus assez grandes pour être vraiment rentables. Et la plaisance n'est pas tellement développée non plus. Elle pourrait l'être un peu plus, à mon avis, oui. Mais le travail qui a été fait dès le XVIe siècle, parce que ça a commencé au XVIe siècle, hein, avec, paraît-il, Léonard de Vinci qui aurait inventé les écluses modernes, je ne sais pas si c'est vrai, mais on est passé à côté d'anciennes écluses du XVIe siècle, des échelles d'écluses qui se suivent comme ça, impressionnantes. Et le travail qui a été fait au XIXe en France, c'est phénoménal. On peut découvrir la France d'une façon tout à fait originale. On ne reconnaît même pas les coins qu'on connaît par la route, en arrivant par la rivière. C'est vraiment, c'est ce qui est intéressant. C'est des coins tout nouveaux à chaque fois.
Donc on peut dire que de la même manière que pour le rail, ce moyen de transport qui était encore bien utilisé et entretenu au XIXe siècle, va céder la place aux camions. Voilà.
Souvent, tu vois des fraissinets, donc ils passent, tu les vois sur la Seine, tout ça, qui ont un grand panneau marqué ma péniche est l'équivalent de 35 camions, par exemple, des choses comme ça. C'est beaucoup moins polluant, plus efficace que les camions, ça abîme moins les routes, évidemment. Et il y a ce projet de faire le canal de Seine-Nord, qui serait un grand canal, grand gabarit, mais il a permis de découvrir beaucoup de sites préhistoriques avec les fouilles avant les travaux, mais je ne sais pas du tout où ça en est maintenant. Ça fait déjà autant de Sarkozy, on parlait du canal Seine-Nord, et je crois que ça n'a pas beaucoup avancé depuis.
Comment tu te débrouillais, toi? Tu es mécanicien, quel type de moteur tu avais? Moi, ça me pose des tas de questions. Où est-ce que vous faites le plein, par exemple, sur une péniche?
Alors, je ne suis pas du tout mécanicien, oui. Et encore moins électricien. Déjà, au lycée, je ne comprenais rien à l'électricité, et ça n'a pas changé. Et on avait un moteur diesel, un moteur à mariner, ils disent, donc il n'y a pas de vitesse, c'est que des gaz, tu mets les gaz ou tu ralentis. Il n'y a pas de frein, évidemment, c'est un bateau. Pour freiner, c'est la marche arrière. Et comme un bateau avance avec une hélice, quand il recule avec l'hélice, il part soit à droite, soit à gauche. Donc il ne va pas forcément là où tu veux qu'il aille. Donc ça, c'est un truc aussi à s'habituer. Et moi, il a fallu que je m'habitue parce que j'étais plutôt voileux que bateau à moteur. Et au début, j'allais par exemple trop vite. Donc la première écluse qu'on a faite.
Alors, je voulais te demander si ton expérience de marin de mer t'avait servi.
Pas du tout. Pas du tout, non. À part le fait qu'il flotte, le bateau, et qu'il, bon, encore une fois, il ne s'arrête pas tout seul, il faut faire des coups de marche arrière, etc. Non, sinon, ça ne m'a servi à rien. Les écluses que j'avais passées sur les cargos pour monter sur les grands lacs américains, ça ne m'a pas du tout servi.
On va revenir maintenant vers Fabienne pour lui demander comment elle organisait la vie quotidienne. Comment faisais-tu les courses pour que l'équipage soit nourri régulièrement?
On faisait des arrêts de toute façon presque systématiquement.
On ne peut pas s'arrêter n'importe où.
Voilà, quand se présentait un quai où on pouvait s'amarrer pour rester même ponctuellement, mais il fallait bien trouver des points d'amarrage. Et quand on trouvait des petits villages, et bien on faisait avec les ressources qu'on trouvait pour les achats. Quelquefois, on faisait des arrêts dans des villes plus conséquentes et on faisait des réserves.
Est-ce qu'il y a une solidarité entre les marinières? Est-ce que tu as eu l'occasion de faire des rencontres mémorables, de nouer des amitiés, de revoir des gens que tu avais déjà vus?
Oui, c'est certain. On a rencontré des gens qu'on a revus sur d'autres circuits et d'autres points de halte. Oui, il y a des amitiés, donc on se retrouvait de port en port, entre guillemets. Oui. Effectivement, on a eu quelques amis comme ça que nous avons. Mais pour ce qui est du ravitaillement, ça ne posait pas de problème. Quant à l'entraide entre marinières, je ne l'ai pas trop senti entre marinières, mais globalement entre équipes de bateaux, on se soutient, on s'aide, on trouve une solution pour résoudre des problèmes qu'autre chose.
Moi, j'ai un épisode qui nous est arrivé. On était sur le Doubs et une dame des voies navigables de France, VNF, c'est l'administration qui s'occupe des circuits, des canaux, etc., nous prévient qu'on doit s'arrêter à cet endroit-là. Il y avait un petit quai flottant en aluminium, là, parce qu'un commerce descendait et qu'il n'y avait pas la place pour se croiser à cet endroit-là. Donc on s'amarre, là on s'arrête, et on voit ce bateau descendre. Alors c'était un Fraissinet, donc 5 mètres de large, 40 mètres de long. Et j'avais bien remarqué que vers le milieu de la rivière, il y avait la terre, ce qu'on appelle sur les canaux un atterrissement, c'est-à-dire un tas de boue là, qui dépassait. Donc je me dis, il ne peut pas aller là-bas, ça va être juste. Et ça a été tellement juste, j'ai filmé à ce moment-là, c'est que les deux coques se sont frottées. On voit mes pieds en train de filmer, et on voit les pieds du marinier de la péniche en face. Et au moment où il passe, d'un moment, il dit, heureusement qu'elle est en fer, la péniche. C'est un bateau en acier. Parce qu'on s'est vraiment frotté comme ça. C'est vraiment la coque contre la coque. On est passé comme ça. Bon, ça s'est bien passé. Et curieusement, je ne sais pas combien d'années plus tard, peut-être une année après, une autre saison, on était dans un autre endroit. On a descendu un canal. On arrive sur la rivière. C'était la Saône, je crois, celle-là, qui était un peu en crue. Et à force d'être habitué au canal, j'ai pas réalisé qu'on était sur une rivière en crue. Et à un moment, je me suis retrouvé au sec, au bord de la rivière. Je suis allé trop loin vers le bord et j'étais au sec. Une péniche sort de l'écluse en face et s'approche. Je l'appelle par le téléphone et je lui dis, est-ce que vous pouvez me dépanner parce que je suis au sec, j'arrive plus à bouger. Alors, il s'approche. Encore une fois, un Fraissinet, hein, 40 mètres de long. Il a vraiment été... Encore une fois, je te dis, c'est vraiment des métiers bien particuliers, ils sont très forts. Il s'est approché assez près pour pouvoir me lancer une amarre. Je me suis amarré, il m'a sorti sans aucun problème. Et c'était la même péniche. Je l'ai réalisé après que c'était le même bateau.
Ah oui.
Donc du coup, on a trouvé son adresse et on lui a envoyé un panier de produits locaux, foie gras, etc. pour le remercier. Donc en tout cas, les mariniers, plaisanciers ou professionnels, on est toujours prêts à s'entraider. Oui.
Combien de temps a duré cette expérience-là? Parce que tu as fait allusion à des années tout à l'heure. Ça a duré combien de temps cet amusement?
En date, ça a duré 10 ans. Pendant 10 ans, on a navigué à raison de 2 ou 3 sessions par année, puisqu'on ne restait pas le temps.
Donc, vous ne passiez pas toutes les saisons sur le bateau?
Non, on faisait 3 épisodes. On faisait printemps, été, automne. Enfin, grosso modo, l'hiver, on était rarement à bord.
L'hiver, vous étiez à terre.
On a fait une fois ou deux. Mais à ce moment-là, on vivait sur la péniche, on ne naviguait pas en hiver. On faisait qu'y vivre. On n'a jamais pris les canaux pendant l'hiver.
Te déplacer sur des voies d'eau, est-ce que ça a changé ta perception des paysages? Est-ce que tu as vu le monde autrement que quand tu es sur une route au volant, entouré de voitures, dépassé?
Ah oui, c'est certain. Tu n'as pas tout ce qui est de l'affichage des pubs des entrées de ville et des mêmes magasins d'entrée de ville. C'est vrai qu'il y avait des endroits où on ne reconnaissait pas. Comme disait Pierre, il y avait des endroits où on accédait par la rivière, mais d'une façon tout à fait inconnue. C'était très agréable d'ailleurs. Je ne sais pas trop l'exprimer.
Est-ce que sur les voies d'eau, il y a des contrôles policiers, des contrôles douaniers, par exemple
Sur les canaux, non. Nous, ça ne nous est jamais arrivé. Il y a des contrôles sur les rivières, sur les fleuves, sur la Seine, par exemple. On les a vus, nous, on n'a jamais été arrêtés, contrôlés, mais oui, il y a des contrôles, parce qu'il faut avoir un permis de navigation pour naviguer. Ce n'est pas une question de vitesse, hein, parce qu'il ne faut pas dépasser sur un canal les 8 km/h et sur une rivière les 12. Donc, on va rarement trop vite. Mais par rapport aux saisons, d'abord, on a passé 2 hivers où on est allé sur le bateau, mais sans bouger, donc en restant dans le port. Et disons qu'on avait un peu des problèmes de chauffage. Un matin, on s'est réveillé, il faisait 3 dans la cabine. Et j'ai le matelot qui a protesté. Mais sinon, on ne peut pas forcément naviguer l'hiver parce qu'il y a des périodes de chômage. Ça, c'est typique à la France, parce que ça ne se fait pas en Belgique ni en Hollande. C'est-à-dire qu'à une certaine saison, l'hiver en général, les canaux se ferment. Et donc, tu t'arrêtes dans un port. On peut difficilement naviguer l'hiver sur les canaux. Mais tu m'avais posé une question tout à l'heure sur le gasoil. Oui. Comment trouver le gasoil? Eh bien, il faut avoir des bidons.
Il faut avoir des bidons.
Il y a quelques rares endroits où il y a une station en service au bord de l'eau pour les péniches, mais là, c'est beaucoup plus cher. Donc, ce que je faisais, c'est que quand on était dans une ville où il y avait une station service, j'avais récupéré une vieille poussette, un petit caddie comme ça, que j'avais aménagé pour pouvoir transporter 4 bidons. Donc, je pouvais transporter 80 litres de gasoil là-dessus. Et j'allais à la station-service, je remplissais mes bidons et je revenais comme ça jusqu'au bateau. C'était pas toujours facile parce que 80 kilos sur 4 petites roues, il faut les diriger. Mais bon, je me suis toujours débrouillé comme ça.
Mais alors c'est infernal. Alors comment font les gros bateaux commerciaux? Ils ont des cuves suffisamment?
Voilà, ils ont de grandes cuves et ils savent où sont les stations-service fluviales. Mais encore une fois, c'est beaucoup plus cher sur une station-service fluviale parce que c'est un peu spécial, donc ils font payer le prix. Donc nous, on évite en général. Et puis il n'y en a pas beaucoup. Il y en a sur les grands axes, comme la Seine, etc. Mais sur un petit canal, il n'y en a pas, par exemple.
Avez-vous vu des naufrages, des accidents, dehors de celui que tu as évoqué tout à l'heure, des accrochages, des engueulades de bord à bord?
On a vu, alors c'était extraordinaire comme spectacle, deux Fraissinets aménagés en plaisance, hein, deux grosses péniches, et donc avec des passagers à bord, qui se sont croisés sur un petit canal d'abord. Il y a deux histoires comme ça, où vraiment ça a été comme une danse. Avec un pneu entre les deux, elles se touchaient par le nez, tu vois, et chacune passait petit à petit comme ça, comme si c'était un endroit où tu... Chacun se pousse à son tour pour arriver à passer d'un côté à l'autre.
C'était pour passer
dans un canal qui était trop étroit. Ouais. Mais le plus drôle, je dirais, c'est qu'un jour, on était coincé dans une écluse, enfin devant une écluse, dans laquelle il y avait deux grosses péniches, donc Fraissinets. Et quand l'écluse s'est ouverte, alors nous, on se tenait à un noyer, aux branches d'un noyer, parce qu'il n'y avait pas de place pour s'arrêter. Et l'écluse s'est ouverte quand ils ont voulu partir. Le fait de mettre en route l'hélice a chassé l'eau qu'il y avait sous les bateaux. Il y en avait très peu, puisqu'ils étaient descendus. Et pouf, ils se sont retrouvés au sec et coincés. Donc il a fallu qu'ils remplissent l'écluse de nouveau, qu'ils démarrent tout doucement pour arriver à se décoincer l'un de l'autre, et qu'il y en ait un qui sorte avant l'eau. Enfin, on a attendu je ne sais pas combien de temps. Dans les branches.
En moyenne, il faut combien de temps pour passer une écluse?
Si ça va bien, c'est une demi-heure, on va dire. 20 minutes, une demi-heure, oui, quand tout va bien. Oui. Mais tout ne va pas toujours bien. Quelquefois, la porte ne s'ouvre pas, quelquefois, elle ne se ferme pas. Quelquefois, elle se ferme trop vite quand tu es en train de passer. Là, c'est une petite sueur, et c'est un petit coup d'accélérateur.
Effectivement, c'est mal entretenu, comme tu disais, à certains endroits.
Oui, c'est pas très bien entretenu souvent sur les canaux. Il y a encore des endroits où tu le fais toi-même. Par exemple, le début du canal de Bourgogne, tu ouvres les portes toi-même avec ce qu'ils appellent une queue de vache, c'est une grande poignée comme ça, et tu pousses la porte à la main, et tu fermes, tu ouvres les ventelles pour que l'eau rentre, et c'est assez... Pour nous, c'est marrant, parce qu'on est là pour nous s'amuser.
Je voudrais vous poser une dernière question. Est-ce que vous avez une nostalgie de cette période? Est-ce que vous avez passé vraiment de bons moments? Est-ce que vous regrettez ou bien est-ce que finalement ça n'a pas répondu à vos attentes? Non. Fabienne, tu étais plutôt tiède au départ. Est-ce que...
J'étais plutôt tiède et puis à chaque fois Pierre avait une formule pour me faire penser à autre chose, c'est ça fait des souvenirs. D'accord. Et effectivement, on a beaucoup de souvenirs qu'on a matérialisés par des photos. Et à chaque fois qu'on s'arrêtait, je faisais une photo, donc on a un cahier qui raconte tout ça, toutes ces haltes. Et heureusement, parce qu'on avait oublié tous les endroits où nous sommes arrêtés.
Et toi, Pierre, qui étais convaincu au départ, est-ce que ça a répondu à tes attentes, cette expérience?
Moi, j'ai été très content de découvrir un monde complètement différent, vraiment original. Et ça nous fait beaucoup de souvenirs. On est passé dans des endroits avec des noms, en plus, il y a des communes dans l'est de la France qui ont des noms, mais incroyables. Et puis des paysages superbes. On a fait des amis qu'on revoit encore, qui avaient un bateau, qui eux aussi ont vendu leur bateau. Et j'ai la nostalgie de l'eau en général, de toute façon.
On va terminer sur cette note optimiste d'un ami de l'eau, qu'elle soit salée ou qu'elle soit douce. d'une amie un peu plus mesurée, mais enfin peut-être qu'il reste à Fabienne à faire l'expérience de la navigation maritime. Et je vous remercie beaucoup d'avoir apporté à nos auditeurs toutes ces lumières sur la marine d'eau douce. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.
Et sur mon chaland sautant la guée, l'amour peut-être s'est embarqué.